Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission éphémère, l'heure des fiertés. Pendant une heure sur Esprit Occitanie et pendant autant d'épisodes qu'il sera possible, nous aborderons le thème de la culture LGBT par le prisme de ce mois de juin, le mois des fiertés. Aujourd'hui, nous continuons cette série de podcasts et nous recevons Marlise Demelandre, la réalisatrice du documentaire Coming In, projeté au Festival des Diversités le 30 juin prochain. Bonjour Marlise.
Bonjour.
Alors, le podcast commencera toujours de la même manière. Marlise, est-ce que vous pourriez vous présenter et donner trois adjectifs pour vous décrire et permettre aux auditeurs de mieux vous connaître ?
Alors, en quelques mots, moi, je suis journaliste, auteur, autrice et réalisatrice, hein, voilà. J'ai beaucoup travaillé sur les questions de genre, hein, par choix, évidemment, et par engagement et conviction personnelle, et également sur des sujets de culture, hein. Voilà, trois adjectifs, opiniâtre, je dirais, curieuse, et féministe.
Ok, merci. On va pouvoir aller plus loin et en savoir plus sur vous et votre documentaire. Donc on va commencer l'interview sans plus tarder. Vous vous êtes présenté donc et attaquons avec ce pourquoi nous sommes là, votre documentaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il traite et en faire un bref résumé pour les auditeurs ?
Oui, alors c'est un documentaire de télévision qui fait un petit peu moins d'une heure et qui aborde un sujet qui pour moi était un angle mort, c'est-à-dire un sujet qui avait été peu abordé, celui de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre au travail. Hein, voilà, le travail, bah, c'est un univers en soi, on y passe entre 20 et 60 ans ou 65 ans, peut-être bientôt, 70% de notre temps. Donc c'est un enjeu extrêmement important de développement personnel. C'est grâce à ça qu'on gagne notre vie, c'est grâce à ça qu'on s'éclate aussi éventuellement professionnellement. Et c'est un lieu où la question de l'orientation sexuelle n'était pas abordée. Toujours renvoyée à la marge, couvert avec l'argument qui voulait que c'était une question d'ordre privé qui ne regardait pas les entreprises et qui ne regardait pas les employeurs. Voilà. Or, on arrive où qu'on soit avec son identité, avec ce qu'on est. Donc, il me semblait extrêmement compliqué de laisser ce sujet-là à la porte. Voilà. Donc, c'est un documentaire que j'ai réalisé en 2015 pour Public Sénat qui est diffusé là lors de ce festival.
Public Sénat, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ?
Public Sénat, c'est une chaîne de télévision publique, hein, chaîne de télévision qui notamment propose les débats qui sont proposés à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais propose également un certain nombre de films et de documentaires.
Et comment l'idée de ce documentaire, donc, elle est née ? Pourquoi vous avez voulu traiter d'un sujet comme celui-ci ?
C'est une histoire assez personnelle. Alors moi, je suis alliée LGBT et à un moment donné, j'ai travaillé comme journaliste au sein d'une rédaction avec une personne qui, au bout de deux ans, m'a, sous le sceau de la confidentialité, révélé qu'elle était lesbienne, qu'elle avait créer sa famille ou parentale, qu'elle avait des enfants, mais qu'elle ne pouvait pas dire qui elle est dans son environnement de travail parce que ça lui semblait bien trop dangereux. Et du coup, cette situation-là, elle remonte, c'était il y a 15 ans, 15-20 ans, m'avait vraiment choquée. Je m'étais dit, c'est quand même incroyable, effectivement, que dans ce pays-là, les gens ne soient pas traités à égalité de droit, en quelque sorte, dans l'univers professionnel. C'est-à-dire pour une personne non LGBT, il n'y a aucune difficulté à dire qui elle est, tout simplement. Pour une personne LGBT, la question là se pose vraiment.
Et c'est de là qu'est venu ce zoom, on peut dire, sur le monde du travail en particulier, donc.
Oui, c'est ça. L'idée, c'est de raconter comment cet univers-là, parce que c'est un univers très particulier, le monde du travail. C'est un univers normé, c'est un univers, effectivement, où la norme hétérosexuelle a longtemps été ultra dominante. C'est un univers qui a eu plus de mal à accueillir les femmes, on le sait bien, du moins à des postes à responsabilité. Et c'est un univers, effectivement, pour les LGBT, qui a longtemps été un univers d'invisibilisation. Voilà, donc c'était intéressant de raconter dans le temps comment les luttes, parce qu'on a parlé beaucoup des luttes qui sont faites au sein de la société civile, c'est-à-dire comment les associations LGBT+ se sont battues pour obtenir l'égalité des droits. Mais on a peu parlé de cet univers-là. Et c'est un univers à enjeux forts, effectivement, bien sûr, parce que si on est discriminé dans le monde du travail, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que éventuellement on va pas avoir de promotion, qu'éventuellement on va être moins payé, qu'éventuellement on va moins bien vivre son quotidien professionnel. Donc en termes de santé psychique, en termes de carrière, d'évolution professionnelle, de trajectoire professionnelle, de bien-être au travail, de lutte contre les discriminations, voilà, ça croise tous ces enjeux-là. Et ça croise aussi des enjeux de droits humains, tout simplement. Voilà, donc j'avais envie de raconter comment, de l'après-guerre, en quelque sorte, on va dire des années 50 à nos jours, cette question-là, elle a émergé dans le monde du travail.
Et pour en revenir à cette collègue donc, qui vous a un peu sensibilisé, on peut dire, à cette question de l'homosexualité au travail, est-ce que selon vous, le fait qu'elle soit à la fois homosexuelle et une femme, c'était une sorte de double peine, entre guillemets, pour elle ?
Je ne sais pas si elle le veut, si elle considérait que là, c'était précisément la double peine, mais effectivement, je pense qu'une identité lesbienne, on le sait bien, ça vient croiser un certain nombre de spécificités. C'est-à-dire que dans le champ du travail, on est une femme, donc on peut être moins promu parce qu'on est une femme. Et puis si on est une femme lesbienne, on s'ajoute en quelque sorte un boulet. Enfin, ça peut être vu comme ça, en tout cas, bien perçu, senti comme ça. Voilà, donc on peut se sentir plus fragile, hein, bien sûr.
Oui, bien sûr. J'ai vu que ce projet, il avait été initié par une mini-série d'abord de films sur l'orientation sexuelle destinée aux entreprises. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, comment la graine du projet est-elle née ?
C'est la même idée, c'est-à-dire qu'il fallait faire surgir une parole et non pas une parole d'entreprise un peu bien pensante sur le sujet, mais une parole de personnes LGBT. C'est leur vécu qui m'intéressait. C'était à eux pour la première fois de raconter ce qu'ils vivaient dans le champ du travail. Et donc j'avais proposé à un certain nombre d'entreprises qui avaient commencé à agir et qui avaient notamment signé pour toutes celles qui se sont engagées dans ce projet la charte LGBT+ de l'autre cercle, sachant que l'autre cercle est une association, l'association qui au niveau national défend la visibilité et l'inclusion des personnes LGBT+ au travail. Et donc l'autre cercle en 2014 a eu l'idée d'engager les entreprises à travers une charte, hein, qui comportait un certain nombre de recommandations, de bonnes pratiques et des propositions d'action. Voilà, donc je suis allée voir les entreprises qui avaient signé cette charte en leur disant « Ce serait bien que la signature de cette charte s'accompagne effectivement d'une prise de parole des personnes LGBT+. » Et finalement, ces films-là, ils sont moins destinés aux personnes LGBT+, qu'aux non-LGBT, pour qu'ils comprennent un petit peu ce qui se vit pour eux dans l'entreprise.
Et alors, est-ce qu'on peut la retrouver quelque part encore, cette mini-série, parce que ça commence un peu à dater quand même ?
Est-ce qu'on peut la trouver quelque part ? Oui, on peut la trouver notamment sur le site de l'autre cercle, je pense. Voilà, on peut la trouver. Je ne suis pas certaine qu'on la trouve ailleurs. Voilà, d'accord. On la trouve sur mon propre site, c'est à peu près tout.
Très bien.
Et dans les entreprises, qui l'utilisent beaucoup. De toute façon, oui. C'est un outil pédagogique pour les entreprises.
Bien sûr, oui. Pour en revenir au documentaire en lui-même, comment est-ce que vous avez recruté les personnes qu'on peut y voir ?
Oui, alors mon idée était vraiment qu'il y ait un regard de différentes générations, un regard et une prise de parole, une parole de différentes générations. Donc j'avais envie que ça soit des personnes de 20 ans à 80 ans, quoi, et qu'il y ait un passage de témoin, un passage de relais, pour qu'on puisse percevoir l'évolution ou la non-évolution des choses, hein, et surtout de la qualité de vie des personnes LGBT+ au travail. Qu'est-ce qui avait évolué, qu'est-ce qui avait avancé, qu'est-ce qui bloquait encore, hein. Donc, j'ai fait un casting en contactant des associations. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations, un certain nombre en tout cas, d'entreprises qui ont créé en interne ou en inter-entreprise des associations LGBT+ et alliées. Donc, je les ai contactées en faisant passer un appel à témoignage et ensuite j'ai rencontré des personnes. Voilà.
Vous aviez eu beaucoup de candidatures ?
Alors, beaucoup. Non, c'était pas si évident que ça, parce qu'il y a toujours une prise de risque. Bon, il y a une prise de risque déjà à être visible dans son entreprise. Il y a une prise de risque à prendre la parole dans un documentaire. Il y a une prise de risque à prendre la parole dans un documentaire de télévision. C'était pas si simple. Mais ça s'est fait. Ça s'est fait.
Qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on est réalisatrice d'un documentaire ? Est-ce que vous pouvez un peu nous résumer les étapes du processus ?
Les étapes, c'est une vaste question.
Si vous pouvez.
L'idée, c'est qu'il y a d'abord une impulsion, une envie. Enfin, c'est toujours un regard sur le monde, un projet documentaire. Donc en général, c'est un sujet auquel on est sensible, qui nous interpelle et qu'on décide de fouiller un peu, mais qu'on décide de fouiller en proposant une mise en récit, un récit et une mise en image qui est la sienne. Hein, voilà. Et donc c'est un regard hein, toujours subjectif sur un sujet qui peut être un sujet de société, qui peut être un sujet personnel, qui peut être un sujet culturel. Et qu'on décide de travailler, et puis c'est un récit, c'est-à-dire c'est une histoire qui se raconte avec des personnages, avec des gens qui sont là, et ça peut être des témoins vivants ou des témoins qui ne sont plus vivants à travers des archives, mais en tout cas c'est une mise en récit.
Il y a une période d'investigation, de remise en question, où on fouille un peu le sujet, donc initialement, quand on crée un documentaire, je suppose.
Oui, bien sûr, on se renseigne d'abord sur panorama un peu large, c'est-à-dire c'est un sujet de société, on se renseigne sur ce sujet, on lit beaucoup, et puis ensuite on rencontre des personnes, des chercheurs, des experts, des personnes qui vivent le sujet ou la problématique en question, et puis on fait son chemin à travers tout ça et on décide de raconter l'histoire à sa manière ou de telle et telle manière.
Et pour ce projet, donc, vous avez été accompagnée par la maison de production La Clairière Production. Pourquoi ce choix de maison et comment vous avez été amenée à faire leur connaissance ?
Oh, j'étais tout simplement productrice dans cette maison, donc je travaillais déjà dans cette société de production comme productrice.
D'accord. Et entre la période où vous l'avez réalisée, donc en 2015, vous nous avez dit, et aujourd'hui, est-ce que vous constatez des changements de mentalité dans la société ?
Alors dans la société ou plus particulièrement dans le monde du travail ?
Oui, dans le monde du travail, bon, qui prend beaucoup de place dans la société, donc, mais plus largement dans la société aussi.
Oui, ça reste un grand sujet de société. On l'a vu, alors il y a eu les combats pour la PMA, des débats autour de la GPA aujourd'hui. Donc il y a des choses encore sur lesquelles il y a l'égalité des droits pour les familles homoparentales, il y a la reconnaissance de ces enfants nés à l'étranger de GPA ou de PMA. Donc ça reste un vrai sujet. Et puis il y a les rapports annuels de SOS Homophobie et d'autres associations qui montrent que les discriminations sont toujours là. Je crois qu'il y a une évolution très positive néanmoins quand on regarde à l'échelle du temps, des années 40, 50 ou du début du siècle à aujourd'hui, évidemment, les choses ont largement évolué pour les personnes LGBT+. Et cette évolution-là, elle a été très, très positive. Pour autant, effectivement, il reste une frange de la population que ces revendications identitaires hérissent qui ne sont pas très inclusives. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la question trans. Donc le sujet évolue, s'amplifie, avec cependant des réactions un peu exacerbées, je dirais, d'une petite frange de la population.
Oui. C'est vrai qu'en 2015, en plus, ça faisait seulement 2 ans que le mariage homosexuel était autorisé. Donc c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui le chemin parcouru, c'est un peu le jour et la nuit, quoi. Et en parlant de temps, dans ce documentaire, on s'intéresse donc, comme vous l'avez dit, à l'homosexualité au travail, dans des époques qui peuvent aller donc de l'après-guerre à aujourd'hui. C'était quelque chose d'important pour vous d'élargir sur ce très long laps de temps, de faire contraster les différentes époques?
Oui, parce que j'avais envie qu'il y ait une sorte de trace mémorielle, c'est-à-dire qu'on perçoive, c'est-à-dire si on était dans le temps présent, c'est un point de vue intéressant, mais le documentaire, c'est un point de vue justement. Si on était à un instant T qui serait aujourd'hui, que se passe-t-il, ça aurait été une autre proposition. Moi, j'avais envie qu'il y ait une évolution, qu'on perçoive une évolution dans le temps, parce que justement, cette évolution dans le temps, elle est assez significative, et ce qui était intéressant, c'est de voir quels ont été les combats des personnes LGBT+ dans la société civile. À partir des années 70, il y a eu des grandes vagues de combats pour l'égalité des droits. Et comment ça s'est répercuté ou pas dans le monde du travail? Est-ce que c'était étanche? Est-ce que ça a avancé de la même manière? Est-ce que ça a avancé différemment? Donc il y a à la fois un regard dans le temps général sur 50 ans, et puis il y a un regard entre ce qui se passait dans la société civile, ce qui se passe dans la société civile, et ce qui se passe dans un univers assez singulier qu'est le monde du travail.
Est-ce qu'il a eu la portée, la visibilité voulue?
Ce documentaire?
Oui.
Il est allé en festival à New York, à Mumbai, en France, chez vous, ailleurs. Voilà. Il a été montré sur LCP, sur une chaîne de télévision, LCP Public Sénat. Évidemment, quand on fait des documentaires, on a envie qu'ils soient très largement vus. Donc, voilà, je pense qu'il a été vu par plusieurs millions de personnes. Après, on a toujours envie de plus.
Oui, bien sûr. Et ben, vous m'avez fait une transition parfaite, parce qu'on va un peu plus s'intéresser au festival maintenant. C'est quand même dans ce cadre que votre film va être projeté au Festival des Diversités. Et d'ailleurs, donc, vous me le disiez hors antenne, vous ne saviez pas que c'était le cas, en fait. Comment ça se fait?
Moi, j'ai pas, tout simplement pas été mise au courant, voilà, et j'avais pas suivi l'actualité du festival, mais il est régulièrement projeté dans des festivals, oui. Donc je suis pas toujours au courant.
Alors justement, vous avez donc participé à d'autres festivals LGBT ou non d'ailleurs?
Oui.
C'était quel festival?
Alors j'ai participé à différents festivals, dont le festival LGBT+, qui se tient à Paris tous les ans, voilà. À Toulouse, je crois que mon film a déjà été programmé. Il a été programmé lors d'un festival à Nantes également. Il a été programmé à Lyon, je pense, dans différentes manifestations et festivals LGBT+. À Paris, c'était le festival Chéri Chéri.
D'accord. Et vous étiez présente, ça vous est arrivé d'être présente sur les lieux du festival pendant les projections?
Oui. Oui, bien sûr.
Et quelle expérience vous en tirez?
Ah, moi, j'adore ça. Je trouve ça toujours extraordinaire de discuter avec la salle après projection.
Oui, je suppose qu'il y a des débats.
Il y a un échange avec le public et ça, c'est toujours formidable.
C'est quelque chose de récent, selon vous, les festivals vraiment axés LGBT? C'est quelque chose qui est en train de fleurir, si on peut dire?
Oui, c'est vrai. Alors, il y a une histoire qui s'est construite autour de ça, que je connais moins bien, du coup. Mais dès les années 70, à New York et ailleurs, il y a des festivals LGBT+ qui se sont montés. Mais on voit bien, effectivement, que là, ça se développe et ça s'enrichit. Moi, je ne suis pas allée là, mais à Mumbai, donc en Inde, le film a été projeté dans un festival LGBT+. Il a été projeté, et là j'y étais, à Genève, il a été projeté à Cherbourg. Enfin, oui, effectivement, les festivals LGBT+ se développent un peu partout sur le territoire, mais aussi au niveau international.
Et c'est arrivé qu'ils soient projetés dans des festivals qui n'étaient pas forcément LGBT?
Oui, bien sûr qu'ils sont des festivals de documentaires.
D'accord. Alors avant de s'intéresser à votre parcours personnel, on va faire une pause musicale et c'est vous qui l'avez choisi. Je vais vous laisser l'annoncer.
Oui, c'est Heroes de David Bowie.
Though nothing thing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
On est de retour dans l'heure des fiertés sur Esprit Occitanie avec Marlise Demelandre, réalisatrice du documentaire Coming In, pour continuer cette interview. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va maintenant s'intéresser à votre parcours, Marlise. D'abord, pour en parler, je vous propose de nous remettre un peu dans le contexte de vos activités, parce que vous n'êtes pas que réalisatrice, vous êtes multicasquette.
Oui, je sais pas, on peut le dire comme ça, peut-être. Et donc ?
Donc oui, donc quelles sont vos différentes activités dans la vie ?
Je suis essentiellement journaliste, autrice et réalisatrice, c'est-à-dire que je fais des films pour la télévision, pour des associations, j'ai également un métier de journaliste. Je travaille comme chef d'édition, par exemple, pour des émissions digitales, et j'écris, voilà.
Et depuis que vous êtes dans la vie active, quel a été votre parcours professionnel ?
J'ai toujours, quasiment toujours, été dans des activités liées à l'écriture, au journalisme. J'ai également cofondé à une époque, enfin co-développé, fait un petit pas de côté, donc, et développé une entreprise de conseil qui s'intéressait à la question des femmes dans le monde du travail. Et de fil en aiguille, m'intéressant à la question des femmes, je me suis intéressée à la question des personnes LGBT+ au travail. Parce qu'il y avait des ponts et des liens naturels.
Vous êtes passée par différents médias, donc ?
Oui, par différents médias, à la fois en tant que journaliste indépendante ou journaliste intégrée dans des rédactions.
Alors, on se doute un peu de la réponse, mais peut-être qu'on peut être surpris. Vous avez fait quoi comme étude ?
Alors là, c'est très, très classique. J'ai fait un bac+5 en journalisme.
D'accord. Et alors, pourquoi ce choix ? Est-ce que c'était le vôtre ou est-ce qu'il a été un petit peu influencé par certaines personnes ?
Non, c'était un choix très personnel. Non. J'ai à 20 ans, j'ai essayé différentes choses. J'ai fait des études de lettres, d'histoire de l'art, de sciences politiques. Et peu à peu, le chemin du journalisme s'est dessiné.
Et pour quelles raisons, donc, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce
le rapport au monde, la curiosité, l'envie de raconter le monde.
Vous avez ressenti des difficultés pendant vos études ? Quelles qu'elles soient, d'ailleurs, non ?
Non, pas particulièrement. Non. Bah, l'angoisse de toutes les personnes qui ont 20 ans et qui se demandent ce qu'elles vont faire. Mais par ailleurs, une sorte d'exaltation à apprendre. À apprendre et à profiter de ces années d'études.
Je vous comprends. Est-ce que vous saviez, quand vous étiez jeune, ce que vous vouliez faire plus tard ?
Jeune, parce que 20 ans pour moi c'est jeune.
je sais pas, moi en primaire, collège, lycée.
Ah non, pas du tout. Non, j'en avais aucune idée.
Et aujourd'hui, pas du tout. Aujourd'hui, vous êtes satisfaite dans votre vie professionnelle ?
Bah, c'est passionnant quand on arrive à faire des films pour la télévision, c'est des films documentaires, c'est complexe, c'est compliqué, il y a peu de fenêtres de diffusion, je dirais, donc c'est complexe, il ne faut pas imaginer que c'est simple, mais quand on arrive à faire un film, c'est toujours une aventure extraordinaire. Ouais.
Comment vous les avez trouvées alors, ces fenêtres de diffusion ?
Bah, le sujet qui peut être un sujet original à un moment donné, c'est la rencontre avec un producteur, c'est la rencontre avec des personnages, l'histoire, ça se fait de différentes manières.
Vous avez déjà pensé à changer de voix ou ajouter des cordes à votre arc ?
Ajouter des cordes à mon arc. Oui, quand on est indépendant comme ça et quand on fait du documentaire, il faut avoir plusieurs cordes à son arc, effectivement. D'où à côté un travail de chef d'édition, c'est-à-dire c'est les personnes qui s'assurent qu'une émission est bien en boîte, par exemple. C'est un travail de chef d'édition audiovisuel, un travail d'autrice. Voilà. Il faut faire plusieurs choses. Le métier de documentariste seul ne permet pas de vivre en général.
Ça fait plusieurs fois que vous nous dites que vous êtes chef d'édition. Concrètement, ça consiste en quoi le quotidien d'un ou d'une chef d'édition ?
Alors, un chef d'édition audiovisuel en télévision pour des émissions digitales, c'est la personne qui supervise la fabrication de l'émission et qui s'assure que tout roule le jour de l'enregistrement, avant pour la préparation, puis le jour de l'enregistrement, puis lors du montage.
Est-ce qu'on peut dire
une sorte de rédactrice en chef.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, justement. C'est un peu un équivalent audiovisuel du rédac chef.
Oui.
Et vous êtes également autrice, donc.
Oui.
Et alors,
autrice en général sur des projets... Sur des projets audiovisuels.
Vous n'avez jamais sorti d'ouvrage ?
Si, j'ai déjà écrit quelques livres, enquêtes journalistiques ou des livres de témoignages journalistiques.
Alors, dites-nous en plus, on veut savoir.
j'avais écrit un livre sur les reconversions professionnelles, voilà, les gens qui changent de voie à un moment donné, justement, et qui décident d'aller vers des métiers... pour lesquels ils n'ont pas été formés forcément, mais qui les enthousiasment, qui décident de totalement bifurquer. Voilà, les bifurcations professionnelles. J'ai écrit un livre qui s'appelle Patron Papa et qui donne la parole à quelques grands patrons et qui raconte comment effectivement ils articulent engagement professionnel intense et vie familiale, vie parentale. J'ai écrit un livre sur l'école maternelle, comment ça marche, ce que les enfants y font et y apprennent.
Vous avez envie de vous y remettre à l'écriture ou est-ce que vous êtes déjà peut-être sur un autre projet ?
D'écriture ? Oui, je suis sur des projets pour l'instant des projets qui n'ont pas pris forme, d'écriture de films, oui.
D'accord. Merci pour cette interview. Avant de passer à la programmation du reste des événements du Festival des Diversités, on va faire une dernière petite pause musicale. Et c'est notre ingé son Tiphaine Lemaine qui l'a choisi. Je vais la laisser l'annoncer.
Bonjour, ma pause musicale, du coup, c'est un morceau des Mary Jane Girl qui s'appelle In My House. Et la version que j'ai choisie, c'est une version extraite d'une série qui s'appelle Pose et qui nous emmène au cœur de la ball culture des années 90 à New York. Alors, la ball culture, s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est une culture underground alternative des LGBT et queer de New York qui constituait une communauté d'entraide pour les jeunes noirs et latinos queer et qui constituait des familles alternatives. Et donc la série nous emmène au cœur de cette culture-là. Et chose assez rare pour être soulignée, c'est que la plupart des personnages trans sont interprétés par des actrices transgenres qui souvent aussi ont connu cette communauté des balles.
On est de retour une fois de plus dans l'heure des fiertés sur Esprit Occitanie. C'était la pause musicale de l'ingé son Tiphaine Le Maine. Et donc maintenant, on va passer à l'agenda culturel LGBT. Rappelons déjà le lieu et la date de diffusion de notre sujet. Marlise, où est-ce qu'on peut assister à la diffusion de Coming In et quand ?
C'est le 30 juin.
Voilà.
Le 30 juin.
Le 30 voilà. juin.
Mais pour le lieu.
Alors en fait, c'est à l'espace diversité et laïcité, comme beaucoup des événements du Festival des diversités, donc toujours rue d'Aubusson. Et c'est à 18h30. Je rappelle que c'est organisé par l'autre cercle que vous connaissez, Marlise, Occitanie-Pyrénées et CFDT Occitanie. Mais le Festival des diversités continue, est évidemment rempli de bien d'autres événements. Mercredi 22 juin, vous pouvez venir assister ou participer à un échange sur les familles homoparentales, monoparentales, séparées, recomposées, bref, sur tous les schémas familiaux considérés comme atypiques aujourd'hui. C'est organisé par To Be or Not To Be et ce sera toujours à l'espace diversité laïcité. Également, le 27 et 28 juin, il y aura une table ronde de débat autour des tabous concernant les seniors LGBT, organisés par Génération Plurielle, la Pride Toulouse et toujours l'espace diversité laïcité. Et toujours à l'espace diversité laïcité. Et bien sûr, le samedi 2 juillet se tient la fameuse Marche des Fiertés, la 27e cette année. Elle débutera à 14h30 sur la place du Capitole, mais dès 10h, le village associatif sera présent. Voilà, c'était l'agenda culturel LGBT. Le Festival des diversités comporte évidemment bien d'autres événements et d'expositions. Vous pouvez retrouver la programmation complète du festival sur leur site internet. Marlise, je vais vous laisser le mot de la fin.
Ouais, écoutez, merci beaucoup pour ce partage. Je trouve que ce mélange des genres dans ce festival est très intéressant parce qu'il y a à la fois des expositions, des tables rondes et des films, donc et des manifestations extérieures. Et chacun peut donc y trouver matière à ouverture, curiosité et partage.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup Marlise d'avoir accepté de participer à l'heure des fiertés en tout cas. L'émission touche à sa fin, c'était l'heure des fiertés par Chloé Morand-Bridé. Nous étions avec Marlise de Melandre, que je remercie encore, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur Esprit Occitanie.